Le 16-19 avec Sana sur News FM.
Eh oui les amis, bienvenue dans le 16-19 avec Sana. Si vous venez de débarquer en cours d'émission, on vous l'a dit à l'antenne aussi et sur les réseaux. Aujourd'hui, une interview avec 38e parallèle contre ce projet de loi 1149 visant à professionnaliser l'enseignement de la danse en tenant compte de la diversité pratique. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, moi aussi j'en fais partie de ces artistes du hip-hop qui sont contre ce diplôme-là. Donc, on ne sera pas tout seul. Là, je suis dans le studio avec 38e parallèle. Comment vous allez, les gars?
Ça va, tranquille.
N'hésitez pas à vous approcher de vos micros. Yes. C'est un plaisir toujours. Donc voilà, 38e parallèle. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter un à un. Moi, nous, on se connaît. C'est, voilà.
Moi, du coup, c'est Amir. Mm-hmm. Je suis membre de l'assaut 38e parallèle depuis 2017.
Depuis 2017.
2018.
Ok. 2018. Ensuite,
Joachim Labro, un membre fondateur de l'association 38e parallèle, mm-hmm. Qui a été fondée en 2004.
En 2004. Mm-hmm.
Et moi, c'est Hugo, pareil, membre de 38e parallèle depuis 2018.
Depuis 2018. En tout cas, bienvenue dans cette émission, le 16-19 avec Sana. Les amis, on n'est pas que tous les quatre dans l'émission. Il y a aussi Tiliane qui est là, et stagiaire, qui veut m'accompagner dans l'interview. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, parce que ce qui va se passer, ça te concerne aussi, même si tu es jeune, tu vois. Et nous avons des intervenants et des intervenantes qui sont à Paris, qui font partie des assises du hip-hop. Hein. Nous avons Annick, je ne sais pas si elle m'entend ou pas. Bonjour Annick. Bon, on va essayer de la rappeler, mais en tout cas, elle est en ligne depuis Paris. Elle sera avec nous par téléphone aussi, elle va intervenir. Et il y aura un deuxième intervenant, ça sera Cambod. Donc voilà, Cambod, hein, qu'on va l'appeler dans un instant. Mais voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, 38e parallèle, j'aimerais juste vous poser une première question. Pourquoi vous voulez prendre part dans ce débat-là et contre ce diplôme d'État de danse hip-hop?
Alors, cette loi, tout simplement, elle va compliquer des choses, mm-hmm. dans le milieu général, mm-hmm. du hip-hop, et puis surtout aussi par rapport à ce qu'on fait, mm-hmm. ça veut dire événement. On a une association, loi 1901, et du coup, on fait pas mal d'activités autour du mouvement hip-hop, mmh. du coup il y a du DJing, du graph, et il y a de la transmission, il y a des cours de danse qui sont donnés, et du coup cette loi un petit peu si elle passe, ça va compliquer les choses pour nous on va se sentir un petit peu roulé dans l'histoire.
Tout à fait, parce que si on comprend quand même la danse hip-hop, même l'origine du hip-hop, ça vient de l'autodidacte, en fait, la plupart des artistes. Ouais. Donc voilà.
Ouais, exactement.
Ouais. Et aujourd'hui, le fait que ça soit un diplôme, comme vous le dites, hein, ça pénalise beaucoup de pratiquants et des pratiquantes de hip-hop. Donc vous, quelle solution vous pouvez proposer?
Des solutions, c'est de la contester, mm-hmm. que les acteurs hip-hop ils se mobilisent et qu'ils mènent tous ce combat, parce que c'est un peu, je pense qu'on touche un petit peu à notre éthique et notre liberté dans la façon de pratiquer les trucs. On a été pris un peu de recours sur ce qui se passait réellement au sein des institutions concernant le mouvement hip-hop. Ils parlent de reconnaissance, si on est devenu une culture populaire aujourd'hui, c'est pas à cause des... Ça a contribué, mais c'est pas à cause des institutions. Maintenant le hip-hop c'est un mouvement populaire et je comprends que ça veuille s'institutionnaliser, que certains voient des opportunités là-dedans, mais je pense pas que c'est la direction, le DE, ça soit la direction de travailler, quoi.
De travailler. Comme je le disais dans l'intro, on a aussi des intervenantes et des intervenants à Paris. Là, on va passer un coup de fil à Annick. Est-ce que tu nous entends? Bonjour.
Bonjour, oui, je vous entends bien.
Ça va, vous allez bien?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, ça va super. Est-ce que, Annick, tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît?
Alors, moi, je m'appelle Annick Arnold, je suis danseuse chorégraphe, professeure formatrice et responsable pédagogique, et puis gérante de Paris Danse. La formation, du coup, c'est une il y a une formation aux danseurs, aux métiers des danseurs interprètes sur Paris, et aussi activiste, c'est organisé, produit et mis en place un battle, peut-être qui va parler à certains d'entre vous, qui est le With You Battle.
Comment ça s'appelle?
Qui a été With You Battle.
Ok.
C'est un battle que j'ai produit de 2006 à 2011 à peu près, maximum, et qui a quand même impacté le monde de la danse hip-hop, aussi bien au niveau international que... c'était un concept, un battle complètement conceptualisé et qui avait une très grande notoriété aussi. Donc après le Juif debout, généralement, il y avait le Wii. Donc voilà.
Donc,
c'est mon métier, danseuse, la culture hip-hop, c'est ma culture, hein, j'en fais partie totalement, on va dire.
Et voilà. Et depuis combien de temps vous pratiquez cette discipline-là?
En fait, moi, je danse tout le temps. Je danse depuis que j'ai commencé à marcher, déjà en Afrique, par les danses traditionnelles. Et après, quand je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, 8 ans et demi, ma famille, c'est une famille d'artistes. Hein. Il y a des musiciens, des danseurs, donc des musiques soul, funk, jazz, rap, selon les générations. On faisait ça à la maison et... on dansait déjà, et du coup, quand je suis arrivé en France, c'était en 82, en même temps que le hip-hop, et quand le hip-hop a commencé à se développer, arrivé en France, et j'avais 9 ans, ouais, 9 ans, mais concrètement, c'est vraiment par la hype que je suis rentré dans tout ce qui touche au terme de technique de danse, apprentissage et tout ça, c'est la hype. La hype, fin 80, la hype est arrivée, 86, 87. Et comme j'étais ado à cette période-là, bah, c'était dans mon adolescence aussi, quoi. Et après, j'ai pas lâché, j'ai toujours fait de la des groupes, des scènes, des compagnies. Et après, j'ai eu vraiment une grosse formation en funk style, looking et tout ça avec les prises du galou. Donc moi, les profs qui m'ont appris à danser, qui m'ont formé en technique hip-hop, c'est tout ce qui est pratiquement sur les prises du galou, on va dire, Pocinity, Peter Rabbit, Créa Son Âme, Sugar Pop, Taco, Mr. Wiggles, c'est Mr. Wiggles qui m'a appris à popper, Galou Sam, même si je n'ai pas eu longtemps, mais j'ai appris quand même de vous connaître ça aussi. Maintenant, c'est comme des grands-pères, hein, Pocinity, Sugar Pop, Six, comme tu disais à son âme, mais voilà, c'est comme des grands-pères. En locking, c'est pareil, j'ai eu Sugar Pop, Tony Gogo, Hip Hop, Brian Green. Ryan Dean, voilà, c'est vraiment, c'est comme des. Maintenant, c'était leur élève, et maintenant, c'est comme des grands frères, et quand j'ai fait des masterclass avec eux, ils viennent, voilà.
D'accord. Et vous, Annick, comment vous avez appris la danse, en fait? La danse hip-hop?
La danse hip-hop, hein. Bah, en fait, avec les amis, c'est-à-dire à 14 ans, 14, 13 ans, il y a les MJC. Les MJC, où il y a des activités qui sont proposées, mais mis à part ça, tu as les après-midi, il y avait les après-midi. Et entre jeunes, il y avait aussi les clips vidéo, il y avait Rap Live, MTV, il y avait plein de clips vidéo qui passaient avec des mouvements de danse. Et on s'entraînait soit dehors, soit dans une salle, ou bien après on va dans les après-midi. Et après sur Paris, ce qui était bien, c'était qu'il y avait des boîtes qui organiser des après-midi pour les ados. Donc on avait appelé aussi Montreuil, la main bleue. La main bleue à Montreuil, ou les après-midi, et du moins l'après-midi, il y a le chapelet, c'était à Place Clichy. Voilà, c'est des après-midi pour, voilà, pour les ados, pour les jeunes, et c'est que hip-hop, quoi.
Que hip-hop. Quand
hip-hop, c'est... y avait du hop rock, de la hype, du go-go, et c'est comme ça qu'on apprenait. Tu allais en boîte, et il y a des mouvements de tendance, et tout ça, tu danses, et après, la semaine d'après, tu t'entraînes, et tout ça, pour revenir avec des variantes, et tout, quoi. Et après, t'as...
Et cette loi qui va sortir, hein, ça sera ce jeudi, là, 7 mars, la loi 1149 qui vise à professionnaliser bien sûr l'enseignement de la danse hip-hop. Toi, voilà, en tant que professionnel, hein, tu l'as pas appris à travers une école de danse comme professionnalisé, comme ce qu'ils veulent mettre aujourd'hui en place. Donc, quelles répercussions ça peut avoir pour les danseurs actuellement et pour la génération qui vient après?
Alors, moi, ma génération, on va dire, on était pratiquement tous autodidactes, en fait. Enfin, autodidactes, entre guillemets, parce qu'on était inspirés par ce qui venait des États-Unis aussi. Sauf que les mouvements, on se les appropriait nous-mêmes, on les analysait. Il y avait cette idée d'analyse du mouvement à travers les vidéos et tout ça, et après d'aller en boîte de nuit et de les pratiquer et tout. Et la danse hip-hop est déjà professionnalisée. Depuis 1982 jusqu'à 2024, la danse hip-hop est professionnalisée. Hein. C'est pas le feu du cône qui va professionnaliser cette proposition de loi, je rectifie, qui va professionnaliser la danse hip-hop. De 1982 en 2024, il y a des structures qui se sont mises en place. Les structures de hip-hop n'ont pas attendu la validation des institutions pour être des entrepreneuriats. Enfin, il y a des choses qui se font, et pas que au niveau de Paris, mais aussi au niveau du territoire en entier. Donc, pour les générations à venir, ils ont la possibilité, et je pense que la nouvelle génération, pour les avoir entendus aux assises, ne sont pas pour cette proposition de loi de mettre en place un diplôme de professeur de danse hip-hop. Hein. La grande majorité ne sont pas pour. Ils n'acceptent pas que ce soit cloisonné, une danse et un apprentissage de danser qui te permet d'être totalement libre. Parce que la différence entre les danses académiques et les danses dites hip-hop, de la culture danse hip-hop, c'est qu'il y a une totale liberté, même dans l'apprentissage. Ça veut dire qu'on a des basiques. On a des basiques moves. Ces basiques moves, tout le monde maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec des informations, les connaît pratiquement et les pratique. Mais ce qui définit la différence entre chaque personne, c'est que ces basiques moves permettent à chaque danseur qui le souhaite d'être son propre créateur, d'être son propre, de créer son propre style de danse. Hein. Et ça, les danses académiques, en termes de transmission et de pédagogie, ne l'ont pas. Parce que les académiques, c'est ce qui reste dans une forme de moule, on va dire. Parce qu'en hip-hop, au contraire, ce qui est valorisé, ce qui est développé, on développe le danseur. On développe le danseur pour qu'il soit libre, pour pouvoir s'exprimer, créer sa propre personnalité, son originalité, sa musicalité et son style. Et c'est pour ça qu'on dit que le mouvement hip-hop est en perpétuelle évolution et en mouvement aussi. Parce qu'il y a des jeunes avec ces basiques moves-là qui peuvent aussi être des innovateurs, rapporter des choses nouvelles à ce qui existe déjà. C'est ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs.
En tout cas, c'est très intéressant, c'est que tu dis que la danse hip-hop a déjà été professionnalisée bien avant cette loi-là. Donc voilà, et cette loi, elle est stupide comme quoi que c'est pour protéger l'intégrité physique des pratiquants et de reconnaître le métier et valoriser les compétences pédagogiques. Tout ça, ça a été déjà fait, Anixi, je comprends bien.
Oui, bien sûr. Ça, c'est juste des mots pour pouvoir... ne pas dire véritablement les raisons, les réelles raisons de cette choix de loi. Parce que dans l'absolu, en termes de sécurité, il n'y a pas eu d'étude de fait. Est-ce que, avant de mettre en vote au débat le 6 et le 7, cette proposition de loi, est-ce qu'il y a eu des études de fait? Des études qui prouvent comme quoi que de 1982 jusqu'à 2024, les personnes qui ont fait évoluer en termes de transmission, les professeurs de danse qui ont formé des générations, qui mais pas que françaises, hein, même étrangères, est-ce qu'il y a eu une étude qui prouve comme quoi que il y a plus de blessés chez les pratiquants formés par ces professeurs de danse-là au jour d'aujourd'hui? Non, il y a des personnes, tu peux pratiquer par exemple... Il y a des mouvements où tu vas te blesser en te tordant la cheville, ou des choses comme ça. Mais en break, hein, je pense que les profs, les professeurs de break, hein, qui ont fait des transmissions de génération en génération, on n'en a pas entendu beaucoup des gens qui sont morts en breakant.
Tout à fait. Tout à fait. Là, je suis donc, avec eux.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils appellent sécurité? Est-ce que sécurité, c'est par exemple... un éclat d'accueil où tout est propre, où il y a des miroirs, où il y a un parquet, où il y a des sorties de secours. Moi, je voudrais savoir c'est quoi ce qu'ils appellent sécurité. Parce que même en termes des danses classiques, hein, par exemple, la danse classique est beaucoup plus dangereuse en termes de sécurité corporelle, anatomique, que les danses hip-hop. Hein.
Tout à fait.
La danse classique, on travaille dans l'endehors. Mmh. On travaille dans le contraire du corps. Donc le contraire du corps, les danseurs d'ailleurs ils se plaignent, hein, avec l'âge, à 30 ans ils sont à la retraite, hein, parce qu'ils n'ont plus de hanches, tellement qu'ils ont forcé dans leur en dehors. Les pointes, hein, ça c'est pas sécuritaire, monter sur ses orteils, hein. C'est pas naturel.
Non.
De vouloir monter sur ses orteils, donc ça aussi,
avec tout son poids là.
Maintenant c'est ça en fait, il faut définir c'est quoi ce qui est sécuritaire. Hein.
D'accord. Et Annick, voilà, est-ce que tu, avec tout ce que tu viens de nous expliquer, hein, tous les éclairages que tu viens de nous faire, est-ce qu'on peut dire la meilleure façon de professionnaliser la danse hip-hop, c'est de laisser un libre pratique?
Bien sûr, hein, ça veut dire que la danse hip-hop trouve son chemin. On a déjà une économie, on a déjà un écosystème qui s'est installé depuis toutes ces années. Le fait qu'il y a des vides, hein, parce que le problème, c'est pas qu'on soit contre l'État ou contre les institutions,
tout
pas
à fait,
du tout,
tout
au
à
contraire.
Fait.
Les institutions sont nos partenaires, nos collaborateurs depuis des années. Mm-hmm. Il y a la politique de la ville avec les subventions de certaines associations qui mettent en place soit des événements, des concours de danse, soit des battles ou des choses comme ça. Mm-hmm. C'est un partenariat. Donc il y a déjà un écosystème qui est là, qui est mis en place. Hein. Il y a des profs de hip-hop, hein, qui donnent des cours dans les conservatoires. Donc je vois pas qu'est-ce que ce diplôme-là, cette proposition de loi, et le titre de professeur de danse va emmener de plus, si ce n'est que de nous ramener dans une autre forme d'écosystème. C'est-à-dire là, on veut nous imposer une autre façon de mettre les choses en place, de vivre notre culture et de le penser différemment.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que la question c'est de savoir, de poser à ces députés-là, c'est quoi les réelles, votre réelle motivation. Est-ce que sécuritaire, il faut prouver. Il y a des études, des études de terrain pour prouver que oui, en hip-hop, les professeurs font n'importe quoi, ils cassent les corps des élèves ou des pratiquants et il faut absolument mettre de la sécurité.
Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, d'ailleurs, cette proposition de loi, hein, qui était presque passée inaperçue, parce que c'était depuis le mois d'avril que deux députés d'Indre et Loire et un député de l'Aube, c'est eux qui l'ont proposé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces députés-là qui n'ont jamais dansé du hip-hop dans leur
moi,
vie?
Moi, je l'ai eu en audition, hein, quand même. Hein, mais, on s'est battu Cambod et moi avec les assises regroupent, c'est un collectif qui regroupe. La majorité silencieuse, moi ce que j'appelle la majorité silencieuse, c'est toutes les associations qui se trouvent en France, hein, et qui œuvrent, hein, et qui aussi sont c'est la base de la culture, que les jeunes à qui les associations donnent la passion, l'amour des danses hip-hop, qui, quand il y a des événements, ramènent les pratiquants, leurs élèves, pour soutenir les événements, pour soutenir les dansants, les danseurs et tout ça, toutes ces associations, c'est ce qui forme la culture hip-hop. Ça, c'est la majorité silencieuse. Maintenant, il y a aussi les structures comme de formation comme Tony Mascotte, cool, qui existe depuis 1995. C'est le premier à avoir eu l'idée de structurer la façon de former des danseurs hip-hop au métier de la danse. Et après, il y a Juste Debout aussi qui est arrivé, il y a Paris Dance School. Donc, ces députés-là... n'ont pas fait cette démarche de vraiment chercher déjà à comprendre le marché dans lequel ils veulent ramener un écosystème, en fait. Parce que moi, je pense qu'elles pensent en termes de marché. Et nous, on les a eus en audition parce qu'on a couru comme pas possible pour se faire entendre, nous, les assises. En deux semaines, en un mois maximum, on a couru, on a contacté des députés avec Cambot, Tony Mascotte, les associations, tout le monde s'y est mis, envoyé des lettres aux députés, à ce qu'on les portait, à ce qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous écoutent aussi. Donc, ils nous ont écoutés en audition, ils nous ont pas laissé d'espace de parole. Je pense que c'est leur formation qui fait ça, ça doit être un défaut professionnel. Ils ont parlé exprès pour prendre l'espace, mais malgré tout, on a quand même réussi à leur dire ce qu'on voulait et ce qu'on pensait, qu'il n'était pas possible. Si elles veulent faire leur loi, elles ont le droit, dans l'absolu. C'est leur métier, c'est des législateurs. Elles sont là pour mettre en place des lois, et d'après elles, c'est une demande. Pas que des gens du hip-hop, c'est une demande de toutes les esthétiques de danse. Dans ce cas, si c'est une demande de toutes les esthétiques de danse, elles ont précisé, si les esthétiques qui ne veulent pas faire partie de cette proposition de loi veulent sortir, elles peuvent sortir. Et là, moi, je les ai prises au mot, j'ai dit, dans ce cas, le hip-hop, les autres danses du monde, parce que ça concerne aussi les autres danses du monde, les esthétiques hip-hop ne veulent pas faire partie de votre loi. Faites votre loi si vous voulez, mais retirez-nous de cette loi. Alors, elles ont dit ça 5 minutes avant, et quand je leur ai sorti, je leur ai pointé ça, elles ont sursauté, elles ont dit « Ah non, vous avez mal entendu, il faut que le hip-hop reste. Hein. » Mais pour quelle raison? Alors, l'autre question, c'était le contenu et le référentiel. Est-ce qu'il y a... C'est quoi le contenu? Elles disent « Il n'y a rien. » C'est vide. J'ai dit, mais comment ça c'est vide? Ah, mais c'est à vous de faire d'écrire le contenu, c'est à vous les acteurs d'écrire le contenu. Et je leur dis, mais nous on n'a aucune responsabilité en fait. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le fait de dire nous, on va mettre cette loi en place. Et ça sera voté. Une fois que ça sera voté, il y aura le ministère de la Culture qui verra avec vous, les acteurs de hip-hop, comment faire les référentiels et le contenu. C'est pas possible.
Ah oui. Non, c'est pas possible.
Je me demande que c'est cool de parler, en fait.
C'est pas possible, c'est inadmissible et ça pénalise beaucoup des gens. Et je pense aussi la danse hip-hop, juste le mot hip-hop, c'est l'une des cultures la plus large quand même, l'une des disciplines quoi, en matière de danse. Hein, parce que quand on dit hip-hop, tout va dedans, la plupart des styles, hein, rap, que ce soit de la drill, plein, beaucoup de choses. Là, je suis en face de moi, hein, d'ailleurs, c'est eux qui ont fait le contact, hein, 38e parallèle. Qu'en pensez-vous de ce témoignage de Annick?
Je pense là autour de nous,
tout le monde est d'accord.
On est voilà, donc tout le monde est à peu près d'accord sur un des problèmes. Donc après, c'est compliqué ce qui se passe un peu actuellement et après on a l'arrivée des JO aussi et tout le monde a jonglé sur des trucs. Pour cette loi et ça fait que du coup donc je sais pas si si c'est gagné, mais voilà. Nous, notre position à travers ça, c'est que voilà, nous, on les fait vraiment underground. Mm-hmm. Et est-ce que cette loi, ça va pas être un peu compliqué derrière pour
faire arriver après?
Ouais. Bon, parce que c'est une des facettes, hein, la loi. Alors, après, il y a ça. On voit très bien. Je sais pas en fait si ça rentre pas dans un cursus d'appropriation culturelle, tu vois.
Mais complètement, c'est ça, rentre, je te rejoins.
Voilà, du coup, on a ça, on a pour le graphe aussi, maintenant, on généralise un peu les termes. C'est n'importe quoi. Quelqu'un, un graffeur, quand il va mettre un coup de bombe sur un mur, c'est du street art.
C'est pas ça.
On s'écarte de plus en plus des trucs, et cette loi-là, en fait, elle va créer deux catégories de danseurs.
Mais vous auriez aimé que ça soit plutôt encadré que professionnalisé, ou bien?
Mais en fait, on comprend pas ce que
vous dites. Professionnalisé.
Voilà, professionnalisé pour eux, on comprend pas.
Parce que moi aussi non plus.
C'est vrai. Et de jongler sur des arguments, ça va vous faire connaître, ça vous allez devenir populaire, ça va
vous allez être payé,
ça, ouais, c'est, en fait c'est pas le problème de la culture hip hop, quoi. Faudrait qu'ils acceptent de laisser le hip hop se faire comme
dans son état,
et changer des codes, c'est dangereux, quoi.
Tout à fait. Annick, est-ce que toi t'es d'accord avec ce mot, l'appropriation culturelle, ce terme là?
Ah, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça que le contenu de la loi est vide, hein, parce qu'il y a un problème juridique. C'est qu'en tant que législateur, elles ne veulent pas prendre cette responsabilité. Et qu'elles renvoient au ministère de la Culture, qui renvoie après peut-être aux acteurs hip-hop de chez ON2H, qui est porteur de parole d'après eux auprès de ces institutions-là, pour justement pallier à ce problème juridique. Parce que ils savent très bien qu'au niveau de la loi, si les originaux et les innovateurs, que ce soit en popping, locking, hip-hop, b-boying, house dance, n'ont pas donné leur aval, ils ne peuvent pas l'installer cette proposition de loi. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est un coup un braquage, ils veulent d'abord faire passer cette loi, donc obliger tout le monde à être dans cette loi, et après mettre la pression peut-être pour que les gens ils aillent voir les originaux. Mais les originaux et les innovateurs, ils se sont prononcés, hein. Ils ont dit, nous, il est hors de question que la France, nous ne donnons pas l'autorisation aux Français de faire quoi que ce soit avec nos danses.
Et aujourd'hui, comment on peut faire pour contrer cette loi?
Faut se mobiliser. Moi, je suis rentré en contact avec Annick, c'est par le biais de Rico, Eric, voilà, membre de la Zulu Nation France. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça intéressant que on puisse relayer ce message, parce que c'est vrai qu'il est très peu entendu. Nous, on entend des rumeurs comme ça, on pense pas que ça va aller au bout, et en fait derrière nous il y a toute une machine qui se met en place. Et je pense qu'on devrait tous se mobiliser pour cette loi, et trouver un autre lien avec les institutions qui nous permettrait d'évoluer, déjà de nous reconnaître, de nous pas stigmatiser, ou déjà c'est ça serait déjà ça.
Tout à fait.
Et puis voilà, hein.
Yannick, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans cette interview?
Je pense qu'en termes d'action, et que tout le monde peut faire, c'est d'envoyer des lettres, même si il y a demain et jeudi, parce que c'est demain que ça, et jeudi que ça va être débattu. Selon l'ordre du jour au niveau des assemblées nationales, si c'est pas mercredi, ça serait jeudi. Je pense que en termes d'action, il faudrait téléphoner vers chez vous aux députés de vos régions pour leur signaler que que vous n'êtes pas d'accord, voilà, toutes les associations, les danseurs professionnels, les profs de danse, tout le monde téléphone, quoi, et signale que cette proposition de loi, vous ne voulez pas que les petits hip-hop n'en fassent partie.
Tout à fait.
Ça, il faut le crier très très fort. Mm-hmm. Là, après, pour une manifestation, c'est un peu juste, hein, mm-hmm. pour la simple raison que ON2H, donc l'association ON2H représentée par M. Bian Messi, ils ont bien fait leur boulot malgré tout, parce mm-hmm. qu'ils ont tout fait en catimini. Mm-hmm. Et du coup, le plus grand nombre commence que maintenant à être au courant.
Tout
l'alerte a été donnée, mais le temps que les actions soient mises en place, ça a pris un peu de temps. Et eux, ils ont eu 5 ans. C'est-à-dire que le 25 avril 2023, mm-hmm. La proposition de loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale et l'alerte a été donnée par non à la loi en octobre, mm-hmm. avec une pétition qui circule encore, hein, que j'invite tout le monde à aller signer, parce que là, c'est une des quelques personnes au jour d'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, non, à la loi 1149, c'est le nom de la pétition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment que tout le monde contacte, parce que là, c'est plus une question de nous, de la culture, c'est politique. Mm-hmm. Et les personnes à ce jour qui peuvent exercer une pression mmh. sur ces deux députés Renaissance, ben c'est les autres députés en fait, ou les autres sénateurs, donc de contacter, d'envoyer des emails, de téléphoner et de ne pas lâcher, parce que même si le 6 ou le 7 la loi passe au niveau de l'Assemblée nationale, elle va être dirigée vers le Sénat, donc tout va recommencer à zéro. Et cette fois-ci les députés à la tête de la proposition n'auront pas de poids ou de mainmise dessus. C'est-à-dire elles pourront pas intervenir au niveau du Sénat.
D'accord.
Et tout le processus se remet à zéro. Mmh. Donc c'est ça, j'ai dit, il faut pas lâcher, même si c'est le mercredi, jeudi, d'appeler des députés, quoi. Mmh. Leurs collaborateurs, d'appeler. Ils voient que les autres députés, hein, pas spécialement les députés qui ont mis cette loi en place, parce qu'elles sont très déterminées à vouloir mettre en place leur loi. Mm-hmm. Donc il ne faut pas compter sur elles, hein, il faut compter sur les autres députés pour les contrecarrer.
Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Annick, pour ce témoignage.
N'hésitez pas à appeler Cambod, hein, parce qu'il y a aussi des informations techniques aussi à apporter.
Tout à fait, il y aura une deuxième partie tout de suite, donc on va appeler Cambod aussi pour qu'il puisse donner son avis là-dessus. En tout cas, merci pour tout ce que tu viens de nous dire, hein, parce que c'est très très important.
Les auditeurs, ils peuvent aller sur Instagram, sur le compte @hiphop. Hein. Mm-hmm. Pour avoir des informations, pour aussi donner de la force, pour qu'aussi on continue, parce qu'on contacte la presse, on fait vraiment du lobbying pour en termes d'action, pour que ça puisse bouger, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Merci Annick.
Et donc voilà, vous les amis, vous aussi, vous qui nous écoutez, hein, si vous voulez intervenir, hein, ce sera toujours au 04 56 14 23 54. Comme l'a dit Annick, on va faire une petite pause musicale et ensuite on sera en direct avec un autre intervenant depuis Paris, c'est Cambod, hein, qui sera avec nous en ligne. Donc les amis, bougez pas, on arrive tout de suite.
Le 16-19 avec Sana sur News FM.
Chenal.
This is an OG call.
Chenal.
Dernière couva, dernière que ça, derrière tout ça, y'a du pouf. Dernière résoie, dernière lapsa, derrière tout ça, y'a le gouffre. Dernier petit, dernière playlist, derrière tout ça, y'a du stream. Derrière tout ça, y'a de la triche, je suis dans le game pour éviter la street. Dernière saisie, derrière tout ça, y'a des ennemis. Dernier rinté, dernière filtré, derrière tout ça, y'a du gros bif. Ça vient de Ripa, 9-3 sonar, derrière tout ça, y'a du mépris. Dernière dernier puzzle, dernière story derrière tout ça, y'a de la zone. Dernier ragot, elle me dit que je suis son dernier ragot. Dernier mégot, dernier métaux, derrière tout ça, y'a des oiseaux, derrière la dernière des pétasses. Y'a le dernier mec bien, dernier païen, dernier cahier, dernier comédien. Derrière le dernier revêt, dernière virée, derrière tout ça, que des regrets, dernier remords, dernier cri. Derrière tout ça, des larmes versées, dernier Junji, dernier Yoji. Derrière tout ça, y'a la Corée, dernier rafale, dernier meurtre. Derrière tout ça, le même enfoiré, derrière tout ça, le même enfoiré. Dernier chromie, dernier chromie, j'suis dans la street comme dernier tac, son dernier tromé. Derrière tout ça, le même enfoiré, dernier chromie, dernier chromie. J'suis dans la street comme dernier tac, son dernier tromé. T'as des fourrailles sur eux, négro, il fallait pas. Juste venir me voir et me dire ce qu'il n'allait pas. Hey. T'as des fourrailles sur eux, négro, il fallait pas. Juste venir me voir et me dire ce qu'il n'allait pas. Ce qui n'allait pas. Fallait juste venir me voir et me dire ce qui n'allait pas. T'as des fourrailles sur eux, négro, il fallait pas. Fallait juste venir me voir et me dire ce qui n'allait pas.
La street, mon pote.
Le 16-19 avec Sana sur News FM.
Eh oui les amis, nous sommes de retour sur les ondes du 101.2 hein, pour lutter, pas lutter, mais contrer cette loi hein, qui va sortir le 7 mars, voilà, qui décide de professionnaliser la danse hip-hop. Donc voilà, vous entendez par là ce que je veux dire, parce que si vous n'avez pas de diplôme les amis, c'est foutu pour vous. Donc voilà, pour contrer ça...
Si vous n'avez pas 7000 balles,
c'est... Oh, voilà, c'est mort quoi.
Ouais, parce que du coup on n'en parle pas aussi, c'est... Pour avoir le diplôme, il faut minimum 5000 euros.
On achète le diplôme, c'est ça?
Ben pour passer le diplôme.
Pour passer le diplôme, quoi. Il faut 5000 euros, quoi. Donc il y aura beaucoup d'écoles commerciales, plein de trucs. Donc comment ça se fait pour passer le diplôme? C'est-à-dire pour intégrer dans une école?
Mais en fait, il y a un cursus qui. Bon, il y a la validation des acquis, il mentionne un peu. Tout et n'importe quoi, quoi, pour faire passer cette loi. Et du coup c'est voilà, c'est faut voir un peu ce qui se passe actuellement. Il y a plein de vidéos qui tournent et du coup faut aller checker ça un peu,
faut se mobiliser,
faut faire un maximum de trucs pour que cette loi elle passe pas, quoi.
Et vous en tant que des danseurs hein, et que vous avez un collectif de hip-hop, voilà, on en a parlé tout à l'heure des répercussions hein. Annick, elle nous a expliqué beaucoup de choses. Et vous, qu'est-ce que ça peut générer en fait en tant qu'assaut hip-hop?
Bah, en tant qu'assaut, c'est le développement de la transmission. Hein. C'est voilà, c'est la manière comment les cours ils vont être donnés. Chez nous, on a un cursus bien spécial de académique. Si tu vois un peu ce que je veux dire.
Tout à fait, mais moi je peur que si cette loi est votée, est-ce que les assos culturels, hein, les assos hip-hop hein, qui se battent pour ça, est-ce que ces assos ils vont disparaître, ça va être comment?
Bah, t'as vu les sentences un peu les sentences un peu de cette loi, hein, c'est que bon bah voilà, une personne qui enseigne du hip-hop, qui transmet le truc, bon nous on appelle ça un professeur, mais bon. Pour eux, un professeur, c'est un DE, c'est voilà, c'est n'importe quoi.
C'est pas donné quoi.
Yes. C'est n'importe quoi.
Et comme on le disait juste avant la pause musicale, hein, juste après Annick, on a dit qu'on allait passer un coup de fil aussi à Cambod, hein, qui est depuis Paris aussi, qui fait partie de ce collectif assise du hip-hop. Donc, est-ce que Cambod, tu nous entends?
Oui, très bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur News FM. Cambod, est-ce que je peux te demander de te présenter un petit peu, s'il te plaît, s'il vous plaît. Je tutoie les gens, oui, parce qu'ici c'est la famille.
Il n'y a pas de problème. donc, je suis Cambod. J'enseigne le hip-hop depuis 2004. Mm-hmm. Je suis également chorégraphe, directeur artistique et manager de projets artistiques. Et puis, comme tous, danseur.
Danseur. Ok, bon, Cambodge, hein, nous sommes ici par rapport à cette loi que tu connais même bien que moi, hein, qui va être votée le 7 mars. Toi, quelle est ta réflexion là-dessus? Quelle est ton impression? Ça va être comment si cette loi est votée?
Cette proposition de loi, qui va être soumise au vote, il faut savoir qu'il y a eu 37 amendements lors de la commission le 28 février, donc mercredi dernier. Ils ont été tous rejetés ou retirés. Il n'y a même pas eu d'autorisation de rapport. Donc, moi, la façon dont je perçois ça, c'est qu'on essaie de passer en force. Le problème, je pense, c'est qu'il y avait un DE en 1989, qu'il avait besoin d'être dépoussiéré concernant le classique, le jazz et le contemporain. Au lieu de se contenter de mettre à jour ce DE, ils ont voulu mettre toutes les autres danses dedans, dont les danses hip-hop. Donc, faire un espèce de, excusez-moi le terme, mais de pot pourri avec toutes les danses dedans, et même pour les danses qui étaient déjà concernées, parce qu'il y a une pétition en parallèle aussi pour les autres danses, parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils enlèvent le caractère obligatoire pour eux.
Voilà. D'accord.
Donc là, ça pose vraiment un problème de respect vis-à-vis de toutes ces danses, quelles qu'elles soient, et les nôtres encore plus, par rapport à leur histoire, leur culture, leur manière d'enseigner. On n'enseigne pas de la même manière la danse classique que le hip-hop, que le locking, que le popping, que le break, que la house dance, que le hip-hop new style freestyle. Donc, en fait, on fait un espèce de shake de tout ça, et puis on dit, bah voilà. Mais la saveur n'est pas du tout bonne. Donc, il y a vraiment un problème. La liste est tellement longue de problèmes. Ça va fragiliser tout un tissu social, parce que c'est vrai qu'il y a le caractère non obligatoire qui est mis en avant maintenant en disant bon ben mais c'est pas obligatoire, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous les professeurs qui enseignent en ce moment? Ils vont devenir rien, parce qu'ils auront peut-être pas de CQP, ils auront peut-être pas de BAFA ni de BPJEPS. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment on va les appeler?
Ouais,
et en plus, ils les appellent passeurs culturels. C'est pas des passeurs culturels, c'est des professeurs de danse hip-hop.
Je suis d'accord.
Depuis des années. Et c'est encore pire pour la nouvelle génération, parce que ça les concerne eux directement. Comment ils vont avoir accès à tout ça? Le tarif, ça coûte cher, les études de danse. L'accessibilité à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, de l'environnement social, tout ce qui concerne le mental, parce que ça fait du bien à la tête aussi, parce que c'est un sujet dont on parle très peu. Le fait de danser, de se dépenser, d'avoir un objectif, tout ça c'est très important, et on n'en tient pas compte parce que l'accès d'un point de vue financier va être très compliqué. Pour les dispenses, ça va être très compliqué. En fait, c'est comme si d'un coup on venait, on mettait un coup de pied dans tout ça, et on désorganisait tout, alors que l'écosystème, comme le disait très bien Annick, l'écosystème est déjà organisé.
Tout à fait.
Les laboratoires, ils auraient pu en faire beaucoup, puisqu'il y a plein d'écoles de danse hip-hop en province et à Paris, qui auraient pu passer comme un laboratoire vivant pour justement tester les choses. Et surtout, le point le plus important, consulter tout le monde et non pas faire ça à la va-vite, en cachette, et puis d'un coup, on a la nouvelle en octobre, alors que la loi est enregistrée le 25 avril 2023. Donc tout ça pose énormément de questions, et j'aurai une liste, mais il faudrait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour que je vous donne tous les points négatifs de ce diplôme, un par un. Et le problème, c'est qu'au niveau des amendements, on a essayé de contacter un certain nombre de députés, qu'on remercie d'ailleurs, qui étaient à l'écoute, pour faire passer toutes nos idées avec lesquelles ils étaient en accord. Mais on les écoute pas, en fait. C'est comme si on l'entendait, mais on ne faisait pas attention. Avec Annick, on a été reçus en audition, et il y a eu un point où les députés disaient « Nous, on est législateurs, on va faire la loi, et ensuite... » Il y aura des décrets pour décliner cette loi. Mais une fois que la loi est posée, les décrets, ça peut donner tout et n'importe quoi. Il faut justement pas rentrer dans la loi. Elle a dit, bon, après, si vous voulez pas le faire, vous aurez la possibilité de pas le faire. On a dit, on prend cette possibilité là, maintenant, tout de suite, enlevez-la. Elles ont dit non. Alors, on sait pas pourquoi. Pourquoi il faut passer comme ça en force?
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la loi du plus fort en quelque sorte?
C'est pas la loi du... Quelque part, oui, parce que ils ont la possibilité d'avoir, d'un point de vue de la manière dont c'est structuré au niveau de l'institution et des majorités, puisqu'ils sont majoritaires avec la, les républicains et certains républicains qui vont voter pour, de faire en sorte d'avoir le plus de voix possible. Mais quand sur ce genre de sujet qui concerne tout un secteur en entier du hip-hop et un tissu social, parce que derrière, il y a des gens qui donnent des éducateurs, il y a des gens qui animent des ateliers. Bien sûr, ils vont pouvoir toujours le faire, mais après, ça va créer des concurrences pas saines, tout ça. Entre les diplômés, soi-disant, les non-diplômés, il y en a qui vont vouloir prendre des diplômés d'un coup parce qu'ils vont dire « Ah, bah c'est mieux ». D'autres vont dire « Ah, bah moi, je veux pas de diplômé parce que... un éducateur est peut-être un peu moins payé.
Tout à fait.
Donc tout ça, c'est pas sain. Et si on reste objectif, honnêtement, pour être objectif, à un moment donné, en tant que législateur, on doit être dans l'objectivité aussi. Bah, à un moment donné, quand on avance autant de problèmes, la moindre des choses, c'est de dire, OK, j'ai fait cette loi, cette proposition de loi, elle concerne des disciplines qui étaient concernées en 89. OK. On va l'appliquer éventuellement si on a concerté ces gens-là, qu'ils n'ont pas concerté d'ailleurs, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et pour les autres, on va attendre, parce que c'est trop lourd pour eux. Entre faire des petits modules de juste mise en alerte par rapport à comment aborder l'enseignement par rapport à un petit enfant, en éveil, un enfant, un ado, un adulte, c'est une chose. Mais faire un diplôme de lourd de 3 ans, c'est autre chose, ça implique trop de choses, et en fait on met un cadre autour d'une de danse qui par essence sont complètement à l'opposé du cadre. C'est la liberté pure et l'accessibilité pure à tous. Et là, ce DE va l'enlever s'il passe. Donc c'est vrai que en toute objectivité, à un moment donné, on peut se dire, en tant que législateur, il y a un problème peut-être dans ma manière de procéder. Je continue pour le reste éventuellement en concertant les référents, mais j'abandonne le hip-hop pour le moment. Je les laisse se concerter et éventuellement je reviens vers eux pour faire une collaboration, tout un partenariat fait. Pour avoir quelque chose, on va dire entre guillemets, d'homogène, une espèce de certification. On se valide tous entre nous et c'est parti.
Quelque chose qui pourrait être reconnu par l'État.
Oui, mais comment dire, quelque chose qui c'est reconnu par nous. Donc d'abord, si c'est reconnu par nous tous et qu'on arrive à faire une espèce de quelque chose, mais de léger, quelque chose de léger, bien sûr, avec l'aval de ceux qui ont créé tout ça, donc c'est-à-dire les Américains, parce que ça leur appartient à la base, les steps qu'on enseigne, c'est eux qui les ont créés, Scooby-Doo, Skitter Rabbit, c'est comme si à un moment donné on venait, on les dépossédait de ça et on va dire on va l'enseigner comme ça, ils n'ont pas envie qu'il y ait ce cadre. Eux, ils veulent juste laisser libre ce qui est le fruit de leur création, que tout le monde puisse le prendre et l'utiliser. Et c'est ça qui est très important. Et après, ils vont venir dire oui, mais c'est de l'enseignement, on va mettre un cadre qui est similaire, plus ou moins un tronc commun à tous. On peut pas mettre un tronc commun, on n'enseigne pas un dégagé en classique comme le fait de faire un Fresno. C'est pas du tout la même chose.
Non, c'est pas du tout la même chose.
La sécurité qui a engendré en faisant du popping avec les articulations, en faisant du locking avec les genoux, c'est différent. En faisant du break, ça engendre tellement d'implications physiques. On peut pas faire quelque chose comme ça qui est, on va dire, encore une fois, c'est comme si j'ai mis plein d'ingrédients dans un plat et je secoue tout ça et je le présente. Bah, ça va être immangeable. Si j'ai pas pris le soin de cuire les choses, de voir s'ils vont ensemble, c'est très important.
Je suis d'accord.
Il y a un autre point très important aussi, c'est qu'on fait, c'est comme si en fait, je fais une métaphore, c'est comme si on faisait tous partie d'un jeu de dominos avec un chemin.
Tout à fait.
Si dans ce jeu de dominos avec un chemin, on n'en prend que quelques-uns et qu'on retire tout le reste, le chemin, il n'existe plus.
Non. Il va disparaître.
Voilà.
Est-ce que dans ce cas-là, toi aussi, tu es d'accord avec ce terme, l'appropriation culturelle, en quelque sorte, parce que tu as parlé des États-Unis, donc ce qui veut dire que ça a été né là-bas. Même eux, ils ne veulent pas que ça soit professionnalisé tel qu'a été annoncé dans la loi de 1149, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas très loin, c'est ça, 1149. Ouais, donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une appropriation culturelle, puisque c'est né aussi dans la rue, hein?
Oui, certes, c'est né, parce que c'est vrai que les gens, l'association qui a l'initiative de cela, dit souvent, bon, bah, c'est né dans la rue, maintenant, on a progressé. Oui, on a progressé, mais il faut pas oublier d'où on vient. Ça, c'est la première chose.
C'est très important.
Et la deuxième chose, oui, c'est une appropriation culturelle dans le sens où on va prendre quelque chose et le mettre dans un format qui ne lui correspond pas.
D'accord.
C'est qu'à un moment donné, c'est comme, imaginons, je fais du 40, bah, j'ai beau mettre un 34, bah, je ne rentrerai pas dedans, non. Quoi que je fasse. Sauf si je le déchire. Donc le but, c'est pas de déchirer le but, c'est pas de déchirer les dents hip-hop. Parce que pour moi, on va vraiment devant une catastrophe par rapport à ce secteur concernant le tissu social, la précarité, l'accès. Il va y avoir deux classes. Est-ce qu'en 3 ans, on va pouvoir apprendre du hip-hop si on n'en a jamais fait?
Non.
J'en doute, parce que nous, à notre, avec de l'expérience et d'autres qui en ont encore plus, on est toujours en train d'apprendre. Ça va être compliqué. Comment on va le mettre en place au niveau de l'examen? Est-ce que quelqu'un qui va faire du locking, il va avoir un diplôme général et donc il va pouvoir donner des cours de break?
Et que doit-on faire pour arrêter ça?
À donner des cours de break. Donc tout ça pose problème. D'un point de vue réalisation technique, c'est impossible. Ou alors on va faire un pot pourri, un examen où il y a un peu de break, un peu de lock, un peu de pop, un peu de house dance, un peu de new style. C'est quand on regarde les choses, si on est honnête, on regarde, on dit oh là là, c'est pas possible. Là, j'ai... En fait, je pense qu'il y a une non-maîtrise du sujet qui fait que bah en fait, on a mis les pieds dans un truc qu'on ne maîtrise pas.
D'accord. Est-ce que, voilà, je suis avec 38e parallèle, hein, vous les connaissez. Est-ce que vous vous êtes dit aussi 38e parallèle, quand vous avez vu la proposition, vous vous êtes dit, oh là là, oh, c'est foutu.
Non, mais nous, en fait, on savait que ça, il y avait des tentatives déjà. En 2015, ils avaient proposé un premier projet de loi avec certains acteurs. Certains acteurs de la danse hip-hop, et du coup ça a été refusé, et là ils reviennent, du coup moi je pense que les JO aussi, ça y contribue un petit peu aussi, on est en train de rentrer dans un mouvement, dans un autre mouvement hip-hop. Ça veut dire que là maintenant il y a des fédérations, ça devient
compliqué, quoi.
Ça se devient de moins en moins underground, quand on parle de fédération, on parle de diplôme d'État, on parle d'établissement, le lien qu'il y a à faire avec eux, c'est le partenaire qu'il y a avec eux, il est pas dans les diplômes d'État. Donc du coup,
d'accord. En tout cas, voilà, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous sur le Zone de News FM à Cambodge. Donc on arrive à la fin de cette interview. En tout cas, ça nous a été tellement apprécié vos deux témoignages, hein, et merci pour toute la place que vous occupez, hein, au niveau de la culture hip-hop, pour que ça ne disparaisse pas. Et je pense que le combat, ça continue. Si vous voulez conclure aujourd'hui, vous conclurez comment?
Bah, mobilisez-vous, parce que c'est pas gagné, quoi.
Tout à fait.
Il faut signer les pétitions, faut relier les messages. Nous on a apprécié de voir un peu des artistes prendre position à Akhenaton avec le message qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Voilà, les rappeurs, les graffeurs, les danseurs, voilà, faut se mobiliser et puis voilà.
Yes, il faut se mobiliser.
Je pense que voilà, faut faire des événements, faut continuer à faire des événements parce que je pense aussi le cadre événementiel il va changer. Voilà, il a déjà même changé quand il y a des battles maintenant. C'est plus les regroupements hip-hop qu'on a connus
avant.
Voilà, ils sont rentrés dans un cadre un peu sportif.
Après, ça change aussi. Je pense que c'est normal, mais il faut que ça change.
Ça évolue constamment. Aussi. Mais là, ça va prendre une direction. Je pense pas que ça va être l'évolution.
En tout cas, Cambod, merci à toi. Est-ce que voilà, tu veux conclure comment?
Oui, moi j'aurais conclu un petit peu de la même manière. Il y a la pétition, il y a la tribune. C'est pas encore fait. Donc il y a le vote à l'Assemblée. Ensuite, si ça passe, il y a une autre étape au Sénat. Donc il faut vraiment se mobiliser, faire appel à des personnes qui sont liées à la culture hip-hop. Que ce soit les rappeurs, les activistes, quels qu'ils soient, de n'importe quel domaine artistique hip-hop, et même en dehors, parce que les sensibilités, c'est une culture qui touche le monde entier, qu'on soit hip-hop ou pas hip-hop. Donc, tous les soutiens sont les bienvenus. Et il faut, là, on s'est bougé tous pour qu'il y ait 57 amendements pour enlever le hip-hop. Le 6 et 7 mars et donc il faut vraiment continuer, il faut rien lâcher et pour que notre culture reste à l'image de ce qu'elle est, libre et contraire à tout cadre par son essence.
D'accord, merci beaucoup et à la prochaine.
Merci.
Dès qu'on aura la victoire, on en referait une autre interview où on en parlera.
J'espère bien.
Merci. Gros regroupement.
30e parallèle de l'invitation également.
Merci, Bigote. Donc voilà les amis, on est à la fin de cette interview. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi, 38e parallèle, pour tout ce que vous faites, hein, pour le hip-hop, pour la culture, aussi, pour la région, pour la ville. Donc voilà, nous, ça nous fait plaisir.
Merci à toi aussi. Hein.
Merci.
À la prochaine.
Allez, les amis. Et vous aussi, vous qui nous écoutez également, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez intervenir, vous le pouvez, puisqu'il y a plein de pétitions en ligne que vous pouvez aller signer ça. On va partir en musique, on va partir avec une nouveauté. News FM, c'est Tchakola, bien sûr. Son projet vient tout juste de tomber sur toutes les plateformes de streaming. Là, c'est son titre.
Le 16-19, avec Sana, sur News FM.